L'éclairage sur vos stocks.
Ils sont en train de s'échauffer avec Kiki la cocotte, le bouquin pour apprendre à bien articuler. Je suis avec Raspail et Marquis de Grand Raspail and the Marquis qui seront en Vostok Session ce soir. Un style classieux, primitif et sensuel surtout. C'est du soul blues beat. Je suis avec les deux compères. Salut.
Salut. Plus salut. Sensuel que Kiki la cocotte.
J'espère. Ça reste
parce que elle a quand même du truc.
Elle a quand même
chien.
Elle a quand même du bagou, hein, Kiki la cocotte. Ouais. Alors vous êtes deux artistes alors qui avaient énormément tourné. Raspail par exemple, t'as fait la première partie de Zaz, t'as énormément collaboré avec d'autres artistes, par exemple Jean-Louis Picrot.
Pierrot,
c'est mes notes qui
c'est
sont mal écrites.
Grave, prie.
T'es au chant, à la guitare, au keyboard et au sample pour Grand Raspail and the Marquis. De ton côté, Marquis, t'as intégré les studios de Dave Stewart, connu pour Eurythmics en tant que batteur station. T'as aussi eu des projets avec Dale Davis, le batteur d'Amy Winehouse. T'es responsable de la batterie, des beats et des backings dans Grand Raspail et The Marquis. Qu'est-ce qui vous a fait vous mettre ensemble?
Alors, l'histoire.
L'amour du beat.
L'amour du beat, ouais.
Qu'est-ce qu'on s'est mis ensemble
beat, en tout
Non,
cas,
mais ça a commencé, ça a commencé en fait que moi j'ai un studio dans lequel je fais beaucoup de projets personnels ou autres. Et le Marquis, il est venu un jour pour qu'on démarre des sessions sur des bases de jam. Et en fait, on a commencé à développer un peu ce son assez typique, très, très anglophone, un peu garage new-yorkais. Petit à petit, quoi, c'est-à-dire avec vraiment des batteries très organiques, en fait. C'est le talent du Marquis, aka Stéphane Roule, mais c'est son talent, c'est cette frappe hyper belle, quoi, comme ça. Et puis, moi, j'ai tourné autour, tout simplement, quoi.
Un petit peu une frappe qu'on appelle le plantage des clous.
Il a bien embelli. Je tourne
autour,
quand même.
Je tourne autour.
Alors, ça a commencé par des jams, en fait.
Ah, oui.
C'est exactement ça. On a commencé à jammer pendant... J'étais resté une semaine dans ton studio.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et puis, ça a tout de suite pris. Tout de suite.
La magie a opéré.
La magie a opéré tout de suite. Oui. On en avait parlé auparavant. On se voyait un petit peu sur ton nom. On prenait une bière. On en discutait. Et puis, en fait... Tout naturellement, ça s'est fait.
C'était une envie qui se sentait un petit peu, qui,
totalement.
Est venue, qui s'est développée.
Je connaissais Fred... son travail auparavant, donc j'avais aussi envie de collaborer avec lui, vu ses antécédents et la qualité de musicien, de compositeur, et j'ai été ravi.
Alors justement, Marquis, en parlant d'antécédents, tous deux, vous avez un CV qui doit faire plusieurs pages, un CV musical très très long, vous avez chacun beaucoup de vécu. Ce duo, qu'est-ce qui vous apporte par rapport aux autres carrières que vous avez pu avoir?
Ce dont j'avais toujours rêvé, pour être honnête. Cette collaboration,
les blagues.
On rigole pas avec Dale Davis.
Non, je renie à rien du passé ou de tous ceux que je connais là-bas en Angleterre, mais comment l'expliquer, j'avais vraiment envie d'obtenir une couleur de son, d'avoir déjà le projet de duo m'avait toujours intéressé. Et cette opportunité avec Fred s'est réalisée, et c'est là où ce rêve a été pour moi accompli.
En tant que batteur de session, ça t'a peut-être apporté une autre liberté aussi, le duo.
Je ne me sens pas du tout batteur de session avec Fred, c'est ça. C'est que batteur de session, c'est particulier. Tu dois suivre des fois des directives. T'as un directeur musical sur chaque tournée, ou dépendamment des artistes. Avec Fred, c'est une réelle collaboration. Liberté aussi, et puis ce son dont je rêvais et qui est là, en fait.
Voilà. Ouais, et puis parce que le duo, en fait, comme tu dis, c'est des formats qui sont assez fragiles, en fait. Formats qui, si t'es pas dans la liberté d'exécution, qui marchent pas forcément. Et moi, par exemple, sur mes années de route, en fait, j'ai en tout cas, il y a toujours quelque chose que j'ai pas trop voulu, c'est des projets trop... trop écrit, hein, où tu vois, alors d'accord, on a du sample sur scène, mais en fait on tourne autour des samples. Par exemple, on a des structures, mais qui sont des structures approximatives. On répète pas énormément. On est plutôt dans la création.
Ah, dans vos compositions, il y a un côté un peu trance aussi.
Ouais, et puis sur scène, c'est important.
De loop, de boucle, on va vraiment chercher l'ambiance. En fait.
Ouais, c'est ça. Et nous, on tourne autour. Et en fait, on n'a pas tendance à écrire les choses de manière très fixe. Et c'est la même chose en studio où, en fait, on va prendre les prises qui sont les plus belles ou les plus justes en termes de tempo, même de justesse. Mais en fait, on va prendre ce qui est le plus dangereux, quoi.
Le plus dangereux, un petit peu en termes d'énergie aussi, c'est ce que vous recherchez avant tout.
Ah, mais oui, bien
tout.
Sûr. Ah, oui. Complet, ouais.
Totalement. Ouais.
C'est justement, donc, en fait, vous cherchez l'énergie, c'est un petit peu le plus dangereux, comme tu l'as dit, Raspail. Ce côté dangereux, c'est aussi ce qui fait, par exemple, si vous vous sentez bien ou pas sur scène, j'imagine, peut-être un côté où les concerts peuvent durer 15 minutes, comme 3 heures, selon un petit peu. Comment vous le sentez?
Vous verrez ce soir, vous allez voir ce soir.
Vous jouez beaucoup avec
si au bout de 5 minutes on arrête, c'est qu'il y a eu un problème, quoi, manifestement. Non, de toute façon. Alors, c'est une question intéressante parce que, effectivement, quand tu es engagé pour faire un concert, tu vas pas la faire à la Bob Dylan 15 minutes si tu te sens pas très bien, quoi. T'es embauché pour jouer une heure, tu joues une heure et demie. Comment, toi, en tant que musicien, tu gères des positions où tu te sens pas à l'aise? Ça, c'est une grande question. Je réponds toujours pas depuis 20 ans. Ouais.
Ça vous est déjà arrivé de devoir sacrifier un titre ou deux de la fin de la setlist parce que vous avez passé trop de temps peut-être sur un autre?
Dans ce sens-là? Non, pas vraiment, non. Non, parce qu'on allonge au pire, c'est pas un problème. Et là, c'est là que tu verras. Si on a joué 2 heures ce soir, c'est qu'on a passé un bon moment.
Les portes sont ouvertes pendant 2 heures, en tout cas.
On a eu quelques concerts, les conditions en Allemagne.
Oui, mais ça.
Où les conditions n'étaient pas difficiles, étaient assez compliquées en fait. Mais non, le fait d'être encore deux, de bien se connaître, ça fonctionnait tout le temps. Il y avait toujours une magie de toute façon, quoi qu'il se passe. Donc.
Vous vous connaissez bien tous les deux, mais ce soir il y a également une surprise, une invitée surprise, Oné, la bassiste de Las Furias et de Fire Cult, pour le projet. C'est quoi un petit peu son implication dans les singles que vous sortez?
Ah, c'est juste qu'en fait moi je connaissais son groupe, sa voix, et puis je la connaissais pas, mais je trouvais que c'était intéressant, et puis on a toute une série de morceaux en fait qui sont pas sortis en studio, qu'on est en train de sortir petit à petit là tous les 2-3 mois, et avec ce morceau un petit peu rock'n'roll, un peu tarantinesque peut-être, qui s'appelle Amazed, et j'ai dit putain, ce serait bien là il faudrait mettre une touche féminine, puis je pensais à Oné, et sans se connaître en fait, tout simplement je l'ai appelée, elle a enregistré la voix chez elle, voilà, enfin c'est pas compliqué, mais après c'était cool parce que elle a enregistré des choses vachement spontanées en fait, voilà, enregistré des trucs spontanés, puis moi après je les ai remis dans le mix, c'était super, et du coup on a profité de ce soir pour dire tiens allez, on se rencontre, on se dit bonjour déjà, voilà.
Très important,
on se connaissait pas, donc c'est bon, là on a bu une bière, c'est bon, on arrive un petit peu à se jauger un petit peu mieux, et voilà quoi, elle vient sur un titre.
Ça a matché aussi au même titre que vous deux, ça a matché aussi quand vous avez démarré le projet.
De toute façon, c'est des terrains, c'est comme des espaces de jeu. Une fois que tu as défini l'espace de jeu avec quelqu'un, tu peux éviter quelqu'un d'autre. C'est cool, quoi. C'est un jeu.
Peut-être dans 2 ans, on vous retrouvera à 15 sur scène, qui sait.
Ah, mais moi j'adorerais, c'est ce qu'il y a de plus beau, moi je trouve, jouer à 15.
Grand Raspail and the Marquis, vous chantez en anglais, en français et en arabe. Ce sont des langues qui évoquent quelque chose de particulier pour vous?
Oui, tout à fait. En allemand aussi un petit peu, peut-être pas ce soir, mais l'internationalité, moi c'est un point sur lequel je travaille beaucoup, artistiquement. Je trouve que c'est très intéressant. Je trouve que c'est aussi des fois des positionnements politiques qui sont évidents. Il n'y a pas besoin d'en parler. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Je trouve que chanter un morceau en arabe, ça suffit à soi-même.
Ouais, la langue elle-même porte un certain message sans forcément.
La langue porte déjà un message, et en plus il y a un plaisir à chanter dans des langues comme ça. Voilà, parce que c'est pas du tout la même approche. Voilà, donc. Donc après, on prend 2-3 cours sur le CNED, et puis on s'entoure, on est avec des copains qui parlent arabe, et puis, voilà.
Et tu le parles très bien, en plus.
Chocolat.
C'est avec ces dernières paroles en arabe que je vais vous laisser rejoindre la scène. Merci beaucoup, Grand Raspail and the Marquis.
Radio Vostok. Écoute. Explore.